Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Le procès Pétain-Vichy face à ses juges » est un essai historique de Julian Jackson consacré au procès du maréchal Philippe Pétain en juillet 1945. L'ouvrage ne se contente pas de raconter une audience célèbre, il reconstitue, jour après jour, les trois semaines d'un jugement exceptionnel mené devant une haute cour créée pour examiner la conduite du chef de l'État français entre l'armistice de 1940 et la libération. Jackson inscrit ce moment dans une histoire plus large de la défaite, de la collaboration, de la justice d'après-guerre et de la mémoire collective. Le livre met en évidence les enjeux juridiques, politiques et symboliques du procès ainsi que ses limites, notamment le traitement incomplet des persécutions anti-juives. Par son approche rigoureuse et narrative, il aide à comprendre pourquoi ce procès demeure un objet central et vivadé de l'histoire française contemporaine. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un procès destiné à juger Vichy autant que Pétain. Le livre montre que le procès de 1945 n'a pas seulement visé une personne, mais tout un régime et, au-delà, la manière dont la France a vécu la défaite de 1940. Pétain est traduit devant une haute cour pour répondre de sa conduite entre l'armistice et la libération, ce qui place immédiatement le dossier sur un terrain à la fois juridique et politique. Jackson insiste sur le fait que l'accusé incarnait la continuité du pouvoir de Vichy. Donc la question centrale n'était pas uniquement celle d'une responsabilité individuelle, mais celle d'un système de gouvernement né de l'effondrement national. Cette perspective explique pourquoi tant de factions ont cherché à faire du procès un instrument de légitimation du présent. Les résistants, les anciens vichistes, les gaullistes, les magistrats et les avocats ne défendent pas seulement des arguments techniques, ils tentent aussi d'imposer une lecture de la France occupée. Le procès devient ainsi un moment de redistribution symbolique des rôles entre culpabilité, renoncement, légitimité et salut national. Deuxièmement, les difficultés juridiques d'un jugement inédit en 1945, l'un des apports majeurs du livre est de rendre intelligibles les obstacles juridiques qui entourent les dossiers Pétain. Jackson rappelle qu'il fallait déterminer ce qu'on reprochait exactement à l'ancien chef de l'État, sur quelle base légale et devant quelle juridiction. Ces questions n'étaient pas secondaires car le régime de Vichy avait abrogé ou bouleversé une partie de l'ordre républicain précédent, ce qui compliquait la définition même du cadre du procès. L'auteur montre également que le choix des magistrats, les règles de procédure et la composition de la cour pesaient lourdement sur la perception de la justice rendue. Le livre fait apparaître un contraste entre la solennité de l'institution et le caractère déjà orienté du verdict. Cette dimension est essentielle pour comprendre le procès comme un acte de refondation politique autant qu'un jugement pénal. En exposant les contraintes de la justice d'épuration, Jackson permet de saisir pourquoi le procès fut à la fois légal, exceptionnel et profondément chargé d'enjeux mémoriels. Troisièmement, une reconstitution serrée des stratégies de défense et d'accusation, Jackson analyse le procès comme une scène de confrontation entre styles de parole, tactiques judiciaires et rapports de force symboliques. Il suit les réquisitoires, les plaidoiries, les témoignages à charge et à décharge, ainsi que la manière dont la défense de Pétain, notamment portée par Jacques Izorni, tente de transformer l'audience en débat sur l'honneur du maréchal. L'accusation cherche au contraire à établir la responsabilité du régime dans la collaboration, mais elle se heurte à des dossiers incomplets et à des récits concurrents de l'occupation. Le livre met aussi en valeur la personnalité des témoins, en particulier Pierre Laval, dont l'intervention éclaire le fonctionnement concret du pouvoir à Vichy. Cette approche donne au procès une dimension presque théâtrale, mais sans le réduire à un spectacle, chaque intervention révèle la tentative d'imposer une version de fait. La force du livre est de montrer que l'audience n'est pas seulement un lieu de preuve, mais un espace où se joue la mémoire publique et la hiérarchie des responsabilités. Quatrièmement, le silence du procès sur la persécution des Juifs et ses conséquences. Le livre souligne une limite décisive du procès de 1945, la quasi-absence de traitement des persécutions anti-juives et de la Shoah. Jackson replace cette lacune dans son contexte historique, en rappelant que l'ampleur de la participation de Vichy à la déportation des Juifs n'était pas encore pleinement comprise ni formulée avec les concepts qui deviendront ensuite centraux. Cela ne diminue pas la gravité des faits, mais explique pourquoi le procès s'est concentré sur d'autres griefs, comme l'armistice, la collaboration ou la conduite politique générale du régime. Cette omission donne au livre une portée critique importante, car elle invite à distinguer la justice rendue en 1945 de ce que l'historiographie a ensuite pu établir. Le lecteur comprend ainsi que le procès n'a pas épuisé la vérité historique sur Vichy. Jackson montre qu'un jugement peut être juridiquement conclu sans être historiquement complet, ce qui éclaire les débats postérieurs sur Pétain, sur la responsabilité de l'État français et sur la manière dont la France a longtemps retardé l'examen de certaines dimensions de son passé. En dernier lieu, la postérité d'un procès jamais vraiment clos, la dernière dimension essentielle du livre, tient à la longue vie mémorielle du procès. Jackson explique que la condamnation de Pétain n'a pas fait disparaître le débat, mais l'a au contraire maintenu dans l'espace public, parce que son personnage est resté un point de fixation pour les mémoires rivales de la guerre. Les tentatives de réhabilitation, la survie du pétainisme dans certains milieux, puis les débats plus récents autour du glaive et du bouclier montrent que le verdict de 1945 n'a pas clos la question morale et politique. L'ouvrage relie ainsi le procès à l'évolution de la recherche historique, au procès ultérieur lié à Vichy et au renversement progressif des interprétations dans la société française. Cette perspective donne au livre une vraie profondeur. Il ne raconte pas seulement une audience, il explique comment un jugement peut continuer à structurer la conscience nationale pendant des décennies. En ce sens, le procès devient un révélateur de la difficulté française à solder la mémoire de Vichy et à distinguer héroïsme, renoncement et collaboration. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord à ceux qui veulent comprendre la France de la Seconde Guerre mondiale sans se limiter aux grandes synthèses générales. Il intéressera les lecteurs d'histoire contemporaine, les étudiants, les juristes, mais aussi toute personne cherchant à saisir comment un procès peut devenir un événement politique, moral et mémoriel. Son intérêt principal tient à sa méthode Julian Jackson, ne traite pas Pétain comme une simple figure à condamner ou à absoudre, mais comme le centre d'un conflit de récits sur Vichy, la défaite et la responsabilité nationale. Le livre se distingue de nombreuses études sur le sujet par sa capacité à conjuguer précision judiciaire, analyse historique et réflexion sur la mémoire collective. Il offre une lecture utile pour comprendre non seulement le procès lui-même, mais aussi ce qu'il a laissé en suspens dans la conscience française. Pour qui veut un ouvrage solide, documenté et intellectuellement nuancé sur l'un des dossiers les plus sensibles du XXe siècle français, il constitue une référence particulièrement pertinente. Si vous souhaitez soutenir Julian Jackson, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.